Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Je lisais voici quelques jours qu'à Soissons, il n'y a plus d'asile de nuit, de jour et même plus d'aide sociale d'urgence suite à la suppression des financements de l'État. En revanche, la ville possède une camionnette électrique d'une valeur de 75 000 euros, autonome pendant 6 heures. Elle parcourt la ville pour proposer une douche et des chiottes aux SDF. C'est pas beau ça? Au XVIIe siècle, un homme, Saint-Vincent de Paul, a remué ciel et terre pour aider, sauver, héberger, nourrir les pauvres et les indigents. Et il a réussi à convaincre les nobles, les grands bourgeois, de subventionner, d'aider et même de participer à la distribution de la nourriture, à l'hygiène, aux tâches ménagères. Nos grands de ce monde aujourd'hui préfèrent tuer et massacrer.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour, de nous attaquer nous-mêmes davantage.
Monsieur Macron peut être fier. La France est pour la première fois de son histoire le deuxième pays exportateur d'armes. La vente de ces armes qui tuent femmes et enfants me gêne profondément en tant que citoyenne et en tant qu'être humain. Cette vente remplit les poches de Dassault et je pense qu'il est temps de relire la lettre d'Anatole France. Lettre qu'il publia le 18 juillet 1922 dans l'Humanité à l'attention de Marcel Cachin. Cher citoyen Cachin, je vous prie de signaler à vos lecteurs le récent livre de Michel Cordet, Les Hauts Fourneaux, qu'il importe de connaître. On y trouvera sur les origines et la conduite de la guerre des idées que vous partagerez et qu'on connaît encore trop mal en France. On y verra notamment, ce dont nous avions déjà tous deux quelques soupçons, que la guerre mondiale fut essentiellement l'œuvre des hommes d'argent, que ce sont les hauts industriels des différents États de l'Europe qui tout d'abord la voulurent, la rendirent nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en firent leur État, mirent en elle leur fortune, en tirèrent d'immenses bénéfices, et s'y livrèrent avec tant d'ardeur qu'ils ruinèrent l'Europe, se ruinèrent eux-mêmes et disloquèrent le monde. Ainsi, ceux qui moururent dans cette guerre ne surent pas pourquoi ils mouraient. Il en est de même dans toutes les guerres, mais non, pas au même degré. Ceux qui tombèrent à Gemap ne se trompaient pas à ce point sur la cause à laquelle ils se dévouaient. Cette fois, l'ignorance des victimes est tragique. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Ces maîtres de l'heure possédaient les trois choses nécessaires aux grandes entreprises modernes. Des usines, des banques, des journaux. Michel Cordet nous montre comment ils usèrent de ces trois machines à broyer le monde. Il me donna notamment l'explication d'un phénomène qui m'avait surpris, non par lui-même, mais par son excessive intensité, et dont l'histoire ne m'avait pas fourni un semblable exemple. C'est comment la haine d'un peuple, de tout un peuple, s'étendit en France avec une violence inouïe et hors de toute proportion avec les haines soulevées dans ce même pays par les guerres de la Révolution et de l'Empire. Je ne parle pas des guerres de l'Ancien Régime qui ne faisaient pas haïr aux Français les peuples ennemis. Ce fut cette fois, chez nous, une haine qui ne s'éteignit pas avec la paix, nous fit oublier nos propres intérêts et perdre tout sens des réalités, sans même que nous sentions cette passion qui nous possédait, sinon parfois pour la trouver trop faible. Michel Cordet montre très bien que cette haine a été forgée par les grands journaux qui restent coupables, encore à cette heure, d'un état d'esprit qui conduit la France à avec avec l'Europe entière, à sa ruine totale. L'esprit de vengeance et de haine, dit Michel Corday, est entretenu par les journaux, et cette orthodoxie farouche ne tolère pas la dissidence, ni même la tiédeur. Hors d'elle, tout est défaillance ou félonie. Ne pas la servir, c'est la trahir. Je n'ai lu ici que des extraits, mais l'on se rend compte que rien n'a changé. Puisque je suis femme, je reviens aux femmes. Ces femmes qui viennent pleurnicher à qui mieux, qui se bousculent pour être celle qui a été violée la plus jeune, qui se trompent de violeur, comme Lio, qui a confondu son beau-père avec, je cite, un copain de ce dit beau-père, qui étalent leur vie sexuelle, croyant ainsi impressionner leur public, qui jouent les prudes en rappelant les scènes de cul qu'elles ont tournées devant toute une équipe. Mesdames, ayez un peu d'honneur et prenez exemple sur ces grandes courtisanes qui assumaient d'avoir vendu leur corps pour un rôle, pour de l'argent, pour leur liberté. Elles étaient d'ailleurs respectées pour leur courage. Elles qui, pour éviter la misère, n'avaient pas hésité à prendre un amant riche et bien en vue. Philaret Chasle, que j'avais déjà cité lors de mon émission sur les courtisanes, avait bien compris que ces femmes avaient été poussées par les hommes à choisir cette condition. Et voici ce qu'il écrivait en 1869. On parle des femmes vénales. Si elles avaient le temps ou l'esprit de répondre, elles diraient « Je me venge ». La société féminine, l'armée féminine à laquelle j'appartiens, est misérablement traitée. Il n'y a ni mariage, ni honneur, ni avenir, ni espoir, ni bon métier pour qui n'a pas d'argent. Celle même qui en a reçu de sa famille étant une sorte d'esclave, est exposée à bien des dangers. Nous sommes en France à peu près 100 000 femmes, en surplus des hommes. Les idiotes et les sottes tombent dans l'abîme que vous avez nommé prostitution. Les moins stupides font comme les bandits et livrent à l'état social une guerre à mort. Nous dupons le vieillard. Nous saignons l'étranger, nous mettons des lisières aux petits jeunes gens, nous leur faisons aliéner leurs biens et nous leur confisquons les propriétés de leurs ancêtres. Ah, vous nous refusez du pain ? Ah, vous nous refusez l'honneur ? Eh bien, nous vous volerons vos millions, mes bons petits. Ce courage, cette rage de vivre, elle les gardait jusqu'au bout, ainsi que l'écrivait Z, pseudonyme du comte de Mauny, dans le demi-monde sous le Second Empire. Chez elle, pas la moindre préoccupation de l'avenir, pas l'ombre d'envie de se faire des rentes, d'épargner pour leurs vieux jours. Elles n'y pensent même pas. Elles croquent des fortunes sans y prendre garde. Elles gaspillent avec désinvolture et insouciance l'or que l'on jette à pleine main. Et en véritable et grande courtisane qu'elles sont, la dèche ne les effraie ni ne les abat. La médiocrité seule, l'existence bourgeoise leur ferait horreur. Ce sont des joueuses, et de belles joueuses, tenant le coup jusqu'au bout et ne songeant point au lendemain. Elles mourront peut-être de la poitrine à l'hôpital, ou elles seront ouvreuses de loges à l'opéra, mais tant qu'elles auront des charmes et de la santé, elles n'abdiqueront point. Elles se refuseront énergiquement à accepter la déchéance. Ces femmes ne venaient pas pleurer, une fois leur beauté fanée et la fin de leur succès, sur les violeurs qui avaient profité d'elles. Les petites comédiennes chanteuses actuelles devraient se souvenir de Sarah Bernhardt, qui jamais ne regretta avoir débuté grâce au duc de Morny, son amant du moment. Ces pleureuses ne se battent pas pour que les bombardements cessent sur Gaza, pour que l'aide humanitaire ne soit pas interdite par Tsahal, l'armée la plus morale selon Netanyahou.
Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Tsahal fait tout ce qu'il peut pour éviter de toucher des personnes qui ne sont pas impliquées.
Bien sûr. Pour en revenir à ces pleureuses, elles ne se battent pas non plus pour que notre gouvernement cesse d'envoyer des armes à Israël. Non, leur petite vie est plus importante. Cela me rappelle un très beau texte d'Andreas Latsko, qui fut officier dans l'armée austro-hongroise. Blessé en 1915, il écrira « Homme en guerre », un livre magnifique sur la guerre. Tout un passage est consacré aux femmes. En voici quelques extraits. « Tu veux le savoir, toi, ce qu'il y a de plus affreux ?» gémit-il à l'adresse du philosophe. Ce fut la déception atroce du départ. Pas la guerre. La guerre est ce qu'elle doit être. Ça t'étonne, toi, qu'elle soit cruelle ? Le départ, ça oui, ça nous a démolis. Leur cruauté à elles, ce fut une jolie surprise. Qu'elles aient eu la force de sourire, de jeter des roses, qu'elles puissent faire cadeau à la guerre de leurs maris, de leurs enfants, les garçons qu'elles ont bordés, caressés mille fois, qu'elles ont fabriqués d'elles-mêmes. La voilà la surprise, qu'elles nous aient livrés, expédiés, expédiés pour ne pas se sentir gênées les unes vis-à-vis des autres. Pour que chacune ait son héros, c'est ça, mon vieux, la grande désillusion. Tu crois, toi, que nous serions partis si elle ne nous avait pas envoyés? Tu crois ça? Mais demande donc aux plus idiots des garçons de ferme pourquoi ils cherchent à décrocher la croix avant sa permission. C'est pour exciter la fille qui l'attend? Pour en aguicher d'autres? Pour pouvoir faire le malin auprès des femmes et se les envoyer? C'est rien que pour ça. Si elles ne nous avaient pas laissé nous empiler dans les trains, si elles avaient crié qu'elles ne voulaient pas d'assassins, aucun général n'aurait rien pu faire. Pas un gars ne serait parti si elles avaient crié qu'aucune ne coucherait avec un homme qui en a tué d'autres. Pas un, tu m'entends? Jamais je n'aurais cru qu'elles acceptent ça. Je me disais, elles font semblant, elles se retiennent. Mais quand on entendra le sifflement de la locomotive, elles vont crier, nous arracher du train, elles nous sauveront. Dire qu'elles auraient pu nous sauver et qu'elles se sont contentées de crâner. Et ça, partout, partout dans le monde. Allons dormir, lieutenant. Les femmes sont comme ça, on n'y peut rien. Ah, elles sont comme ça. Elles sont comme ça, mais depuis quand, hein? Tu ne sais pas qu'il y a des suffragettes qui ont giflé des ministres, foutu le feu à des musées, qui se sont fait enchaîner au réverbère pour le droit de vote, tu entends? Pour le droit de vote. Et pour leurs hommes, rien. Pas une parole. Pas un cri, rien. Tu en connais une seule qui se soit jetée devant le train pour son mari? Il n'y en a pas une qui ait insulté un ministre pour nous. Pas une qui se soit collée sur les rails. On n'a pas eu besoin d'en repousser une seule. Pas une n'a bronché. Pas une n'a tenté de nous défendre. Pas une dans le monde entier. Elles nous ont chassés. Elles nous ont cloué le bec. Un bon coup d'éperon comme à ce pauvre deal. Elles nous ont envoyés là où l'on tue, là où l'on meurt, par vanité. Les néo-féministes vont devenir folles si elles entendent ce texte. Je ne pense pas me faire des amis en dénonçant la niaiserie, le conformisme de notre époque. Mais comment supporter cette déliquescence lorsque l'on compare le 21e siècle au siècle précédent? L'on ne prenait pas deux douches par jour, mais l'on se servait de ses neurones. On ne se battait pas pour le climat, mais on ne vivait pas dans une société consumériste. Même le PCF réalisa un film de propagande contre l'expansion de Coca-Cola.
En France, on aime le bon vin.
Les Américains en Amérique, réalisé en 1950, en est l'illustration parfaite.
Et on sait l'apprécier.
La bataille idéologique se joue aussi dans les bistrots français.
Du Coca-Cola. Allez, mon bonhomme, placez votre camelot ailleurs. En Amérique. En Amérique.
Macron veut la guerre. Il se voit en homme fort, aux muscles saillants, à la volonté de faire. Aussi s'est-il senti obligé de diffuser ces photos ridicules sur lesquelles il est transformé en Rocky à l'œil du tigre.
We'll be right back.
dire qu'aujourd'hui, nos enseignants, nos chroniqueurs, nos historiens ironisent sur la propagande de 14-18 qui allait jusqu'à dire que les bombes allemandes ne tuaient pas. En revanche, ces mêmes personnages prennent au sérieux l'idéologie macroniste que propage une information officielle et contrôlée, comme au temps du ministère de l'Éducation et de la propagande du Reich. Voici une interview de Madame Spielbout.
Vous parliez tout à l'heure de la défiance des jeunes envers les médias, mais on pourrait dire en France la défiance des Français avec les médias. Et je pense qu'un des effets positifs d'une éducation plus large critique aux médias, c'est aussi de recréer de la confiance. Il faut de la confiance pour croire, pour avancer, pour développer des projets. Et donc, quelque part, c'est donnant-donnant, on va dire. On va avoir le journaliste qui va faire l'effort d'aller vers, de prendre du temps sur son temps de travail ou hors temps de travail. Moi, j'en ai vu beaucoup aussi après voilà, le plateau qui vont dans un collège ou un lycée pour animer un atelier.
Encore faut-il pouvoir se remettre en question. Et c'est tout le problème de la qualité humaine. Non, mais...
Voilà, mais je trouve quand même qu'il y a un mouvement général et une envie aussi parce que ça donne du sens au métier. Et puis, il y a une responsabilité des établissements scolaires. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup insisté sur le renforcement finalement de l'éducation critique aux médias au sein des programmes et dans les projets d'établissement, parce que vous le savez, au sein du quinquennat actuel d'Emmanuel Macron, il y a eu vraiment le souhait de donner plus d'autonomie aux établissements, de créer un projet avec la communauté éducative et les parents. Et je pense que là, les parents ont un rôle essentiel. Il y a une étude, il n'y a pas longtemps, qui est parue sur les rapports des jeunes à l'information, peut-être la même d'ailleurs que celle que vous citiez, et qui expliquait que la première personne, le premier cercle avec qui un jeune va parler de l'information ou d'une actualité brûlante, c'est avec son cercle familial plus qu'avec ses amis. Donc là, le rôle des parents est très important.
Donc Violette Spielbout pense qu'il faut éduquer la jeunesse aux médias afin qu'elle ne mette plus en doute les informations objectives et lucides de nos journalistes. Est-ce de ces citoyens réfractaires dont parle la députée Spielbout ?
Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron.
Ah, je veux rien savoir ! Je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron ! Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron ! Il a un rapport au langage complètement psychotique ! Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce ! Il est fou ! Ça m'intéresse pas !
Il vient dire ou faire pour...
Non, c'est beaucoup trop tard ! Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité ! Il a perdu totalement le contact avec ce que c'est qu'un pays, avec ce que c'est qu'une société, avec ce que c'est que les travailleurs. Il ne sait plus rien de nous, alors on veut rien savoir de lui.
Bonne soirée.
En effet, comment faire confiance à la propagande d'État ? Souvenons-nous de cette propagande abjecte contre les Juifs sous le régime pétainiste, dont, je le rappelle, le slogan était En Marge. À partir de 1940, fut diffusé en France un film propagandiste, Le Péril Juif, supervisé par Joseph Goebbels. Attention, le document que vous allez entendre est d'une violence insoutenable.
Il faut se rendre compte de l'effroyable danger qui menace la civilisation. Richard Wagner a dit « Le juif est le démon plastique de la déchéance de l'humanité ». Comment ne point se souvenir de ces paroles en regardant ces visages où s'inscrit une cruelle bouffonnerie ? En voilà par exemple qui ont déjà pris des habitudes un peu plus mondaines. Leur père vivait encore au ghetto, mais eux ne l'ont peut-être pas connu. Ici, dans la deuxième et la troisième génération, l'assimilation est presque parfaite. Ressembler au peuple qui les héberge, tel est le mot d'ordre. Même ceux que l'on appelle les vieux aristocrates israélites, qui, par des alliances avec une noblesse en dégénérescence, appartiennent depuis des générations au milieu dit de haute société, sont restés des corps étrangers et doivent être considérés comme tels.
Comparons le juif à un rat.
Ils portent avec eux la destruction, anéantissent les biens et les vivres, propagent d'effroyables maladies. Ils sont rusés, lâches, cruels, et ils surgissent le plus souvent en masses énormes.
Et pourtant, le président Daladier avait, en 1939, fait un discours convaincant lors de la déclaration de guerre. La France était prête à se battre contre l'agression et le diktat de la violence.
Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère
et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris des armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Ce que pense le soldat, le peuple de France tout entier le pense, lui aussi. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie.
Pauvre Daladier, il semblait sincère, mais le pouvoir de l'argent en a décidé autrement.
J'ai pas trop d'argent, la vie maintenant. C'est dur pour tout le monde, surtout pour moi tout seul. L'oseille, je veux de l'oseille pour me renifler et me renflouer du flouze. Des marques, des dollars, des francs et des suisses, des florins et du yen. Pogne, 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 j'en ai pas trop de. J'ai l'air d'un malheureux. Pour garder ses amis, la maison fait plus de crédit. Du fric, des sacs et des briques. Un peu pour la sieste, un peu pour le zeste. Des schnocks, des marques, des dollars, des francs et des suisses, des florins et des yens. Pognon, 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 j'en ai pas trop donné.
D'entendre Pognon Pognon du chanteur belge Plastic Bertrand. L'éducation médiatique dont rêve Violette Spielboot, comment se construit-elle? Comment s'organise-t-elle? Et surtout, comment est-elle financée? TV Monde, dans un reportage, nous rappelle à qui appartient notre presse libre et impartiale.
Une concentration impressionnante. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Et le premier d'entre eux, plus grande fortune du pays, Bernard Arnault, via son groupe de luxe LVMH. Il possède les quotidiens Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Radio Classique, mais aussi des parts du groupe Challenge et de Science et Avenir. On connaît aussi Martin Bouygues, géant du BTP et des télécoms avec ses 9 chaînes du groupe TF1. Ou encore la famille Dassault, héritière du groupe laissée à sa mort par Serge avec le Figaro pour titre phare. Il faut désormais compter avec Xavier Niel, le patron de Free, trublion des télécoms, qui investit en 2010 dans le groupe Le Monde, qui compte, outre le journal de référence, 6 autres titres. Depuis, il ne cesse d'investir dans la presse régionale et en ligne. Un autre magnat des télécoms, Patrick Drahi, 9e fortune de France. Après le rachat de Libération, le patron du groupe Altice, maison mère de SFR, se constitue vite un empire médiatique avec Next Radio TV et ses stations RMC, BFM et BFM TV. Avec son argent, il importe aussi ses méthodes de gestion. Malgré les bénéfices, le groupe licencie un tiers des effectifs en 2020.
BFM TV est une chaîne très rentable, RMC est une radio très rentable, toutes les entités produisent du bénéfice, on ne comprend pas pourquoi on veut faire ce plan. Et d'ailleurs, quand on pose la question à la direction, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est un plan par anticipation de ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite.
C'est une autre grève qui marque la reprise en main du groupe Canal+ par l'industriel Vincent Bolloré via Vivendi. Après avoir censuré des émissions sur Canal, Vincent Bolloré veut imprimer sa marque sur la chaîne Tout Info iTélé. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, iTélé, devenu CNews, s'est transformé en arène pour des polémistes de droite réactionnaire. Une Fox News à la française.
7h08 sur Europe 1.
Et l'inquiétude pointe désormais chez Europe 1. Vincent Bolloré s'est lancé à la conquête de la radio du groupe Lagardère, l'une des plus écoutées de France. Il envisage d'en faire le pendant radiophonique de CNews à un an de l'élection présidentielle.
Alors, comment faire confiance à cette presse détenue par des milliardaires qui ont des intérêts contradictoires avec la masse laborieuse et exploitée par ces mêmes milliardaires? Quand des centaines de milliards sont alloués par l'État et les industriels à l'armement de guerre, comment croire des journalistes qui, comme l'a dit le célèbre histrion Hanouna, ne mordent pas la main qui les nourrit? En 1991, la star du journalisme Patrick Poivre d'Arvor, PPDA pour les intimes, adepte de la promotion canapé, fut prise en faute pour une fausse interview de Fidel Castro. Sur la grand-messe du 20h de TF1, il avait fait croire que Fidel Castro avait répondu à ses questions, dans l'optique d'orienter l'idéologie occidentale dominante, évidemment.
C'était le 16 décembre dernier, le lendemain du retour de Patrick Poivre d'Arvor de Cuba. Et en cet instant, au moment où il passe à l'écran, là, PPDA n'avait pas encore énoncé de contre-vérité au sujet de l'interview de Fidel Castro. Donc il n'avait pas encore donné dans l'intox. Mais écoutez bien ce qu'il va dire.
Fidel Castro essaie de sortir de son isolement économique, mais n'est pas prêt à aucun renoncement idéologique. L'une des équipes de TF1 l'a interrogé hier à Cuba.
Intox. Voilà, maintenant on peut dire que c'est de l'intox. Car voici à présent la soi-disant interview de Fidel Castro par l'équipe de TF1, telle qu'elle a été diffusée dans le journal de 20h.
Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort ?
En fait, Castro ne s'adresse pas là à PPDA, et PPDA ne lui a jamais posé cette question. C'est une supercherie. Et c'est elle, cette journaliste argentine, qui a en réalité posé la question à Castro, comme on le voit dans la version intégrale de la conférence de presse filmée par la télévision cubaine. C'était donc quelques minutes avant qu'il ne lui subtilise sa question, puis truc, la réponse de Castro. Alors j'avais interrogé il y a un peu plus d'un an PPDA au sujet de ses pratiques journalistiques, et notamment les questions refaites après coup.
Alors là, ça c'est un problème que j'essaie d'éviter, parce que je trouve ça très très mauvais, ce sont les questions qui sont faites après. Parce que d'abord, elles peuvent être fausses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Les questions réécrites ou refaites, c'est pas bien. Puis en plus, c'est un peu une triche.
Voilà, c'est de la triche, c'est lui qui le dit, ce qu'il a fait avec Fidel Castro. On peut d'ailleurs s'en revoir un extrait.
C'est donc cela, le travail de journaliste libre et impartial. De telles méthodes ne rappellent-elles pas l'information propagandiste du gouvernement de Vichy ? Je terminerai avec quelques extraits d'une interview de Pierre Bourdieu sur la télévision et les journalistes.
À la télévision, or, si elle fait ce que je dis, c'est-à-dire si par exemple, en mettant en tête des faits divers, or, vous pouvez vérifier, prenez France Info, dans 5 minutes, on peut faire la vérification. On va commencer par un fait divers, et de plus en plus, et puis quand ce n'est pas la page sportive, etc. Bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. La télévision à cette propriété qu'elle montre. Bon. Mais on peut paradoxalement cacher en montrant. Bon, alors maintenant, évidemment, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer, bon, si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer, mais on peut aussi cacher en montrant ce qu'il faut montrer, mais en le montrant de telle manière qu'on ne le montre pas, en montrant de telle manière qu'on on le décompose, ou on le déconstruit, on le rend insignifiant, ou au contraire qu'on le construit de telle manière qu'il prend un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, sur ce point, j'aurai l'embarras du choix, mais je prends deux exemples qui sont empruntés à un très beau travail de Patrick Champagne dans La misère du monde. Patrick Champagne a fait un chapitre consacré à la représentation que les médias donnent des phénomènes de misère, de qu'on appelle de banlieue, etc., etc. Et il montre comment les journalistes, portés à la fois par les propensions inhérentes à leur métier, à leur vision du monde, à leur formation, à leur, oui, à leur disposition, etc., mais aussi par la logique de la profession dans laquelle ils se trouvent, etc., ils montrent donc comment les journalistes, sous ces différentes contraintes, sélectionne dans la réalité sociale et dans cette réalité particulière qu'est la vie des banlieues, un aspect tout à fait particulier et qui ne correspond en général pas à grand-chose. Alors, principe de sélection. Le principe de sélection, c'est le sensationnel. C'est donc ce qui est sensible, immédiat, mais alors c'est encore trop vague. Le sensationnel, c'est aussi le spectaculaire. On est dans une logique du spectacle, on filme, etc. Donc il est normal qu'on filme des choses spectaculaires. La télévision appelle en quelque sorte du spectaculaire, du sensationnel, elle appelle à la dramatisation, elle appelle à la vision dramatique. Et un des problèmes étant d'avoir l'ouverture du journal. Il va y avoir une compétition entre les journalistes pour avoir l'ouverture, une compétition entre les journaux pour avoir la meilleure ouverture, etc. etc. et tout ça va porter à la dramatisation. Donc, dans les banlieues, ce qui intéressera, ce sont les émeutes, c'est déjà un grand mot, hein. Ça peut être un chahut qui devient émeute, alors là aussi on fait le même travail sur les mots, avec des mots ordinaires, on n'a rien à dire, on n'épate pas le bourgeois, ni le peuple, bon, donc il faut des mots extraordinaires. Donc les journalistes, grosso modo, s'intéressent à l'exceptionnel pour eux. Ce qui peut être ultra banal pour d'autres pourrait être extraordinaire pour eux, grosso modo, donc, ils s'intéressent à l'extraordinaire, là je crois que c'est pour résumer ce que j'ai à dire, l'extraordinaire, en mettant tiré entre les deux mots, l'extraordinaire, bon, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'ordinaire, ce qui rompt avec la routine ordinaire, et l'extraordinaire c'est quoi? C'est ce qui n'est pas quotidien, ce qu'on ne voit pas tous les jours, alors c'est bizarre, les quotidiens doivent parler de ce qui n'est pas quotidien, alors c'est un problème, ils doivent parler quotidiennement de l'extra quotidien, c'est du boulot, il faut voir, le métier de journaliste n'est pas facile, hein, je ne le critique pas. Donc, l'extraordinaire, ça sera quoi? Ce qui sort du cadre quotidien. Bon, alors, ça va être justement le fait divers, etc., etc. Et aussi, alors c'est là que ça devient plus grave, ça va être ce qui est extraordinaire par rapport aux autres journaux. Bon, c'est la double définition, c'est ce qui est différent de l'ordinaire et ce qui est différent de ce que les autres journaux disent de l'ordinaire, ou disent ordinairement. Bon. L'image a cette force exceptionnelle qu'elle peut produire ce que les critiques littéraires appellent un effet de réel. Elle peut faire croire, elle peut faire voir et faire croire à ce qu'elle fait voir. Et cette sorte de puissance d'évocation a des effets de mobilisation. Elle peut faire exister pas seulement des idées, pas seulement des images, des représentations, elle peut faire exister des groupes.
Cette émission se poursuivra très bientôt et je vous laisserai sur le morceau d'Easy Blin du groupe de New Wave allemand Propaganda.
Anstand und Gehorsam. the whole time scoop some tea in.
Journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.